Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe aux États-Unis, en Caroline du Nord, en 2014. Elle met en scène une mère qui veut punir son adolescente de fille, coupable d'avoir harcelé ses camarades sur les réseaux sociaux. La jeune écervelée n'est pas membre de la Ligue du LOL, mais sa mère décide quand même qu'elle doit faire amende publique de ses agissements en postant sur Facebook une photo d'elle tenant un écriteau qui dit « Je m'appelle Hailey, je suis gentille, attentionnée et intelligente, mais je prends des mauvaises décisions en ce qui concerne les réseaux sociaux. Comme punition, je vends mon iPod et je reverserai l'argent à l'association caritative Beat Bullying qui lutte contre le cyberharcèlement et ce afin de me racheter et d'apporter mes connaissances à Bullying. Car le cyberharcèlement n'est pas quelque chose de bien fini l'écriteau. Sauf qu'un internaute repère l'image et la fait circuler sur le réseau de microblogging Reddit. Le post est partagé des milliers de fois. Certains internautes racontent le site Genocide, où j'ai trouvé cette histoire, justifie la mère, estimant que c'est un bon moyen pour faire comprendre son erreur à cette adolescente. Un autre raconte à son tour « Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a un jour surpris en train de harceler un enfant parce qu'il était pauvre et sale. Elle m'a fait porter les mêmes vêtements sans les laver pendant une semaine et j'ai appris la leçon. » D'autres considèrent au contraire que la mère utilise les mêmes méthodes que sa fille, à savoir l'humiliation en ligne, pour la punir et que c'est une mauvaise idée. Certaines théories de psychologie positive ou bienveillante qui s'appuient sur les neurosciences considèrent même qu'il faut bannir toute forme de punition soi-disant éducative, qu'elles ne font que provoquer chez l'enfant ou l'adolescent, je cite, « une cécité émotionnelle qui génère dans le cerveau des blocages de la pensée, lesquels inhibent chez le jeune et l'adulte la capacité d'acquérir de nouvelles informations et d'effacer les vieux programmes dépassés ». C'est en tout cas ce qu'écrit Alice Miller, des punitions, elles, corporelles. Tout de suite, de la matière à réfléchir dans les pieds sur terre avec trois histoires de punitions racontées par Elodie Maillot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Alice, j'ai 17 ans, je suis élève en terminale L. Dans mon lycée, donc, il y a une toute petite association qui s'appelle le BDL, le Bureau des lycéens. C'est une espèce de petite prise de parole que les lycéens ont, mais c'est surtout basé sur ce qu'on va faire pour s'amuser, faire la fête durant l'année. Par exemple, Mardi Gras, Halloween, un tournoi de foot, des ventes de gâteaux, et surtout la fête des terminales, à la fin de l'année terminale. Et donc, il y en a plein en fait qui restent dans le lycée, parce que justement... Depuis la 6e, on leur promet la fête des terminales. Et du coup, c'est vraiment un truc qu'on a tous envie de participer, de le faire. Ça a l'air trop bien. Chaque année, donc en seconde terminale première, il y a 2, 3 ou 4 personnes qui se présentent aux élections du BDL, donc, et qui vont être élues par vote, par les secondes, par les premières, par les terminales. Et donc cette année, au tout début de l'année, il y a eu une réunion avec les 160 terminales, la directrice adjointe et le cadre éducatif qui s'est passé à la chapelle, c'est là où il y a toutes les grosses réunions. Et donc en fait, Madame Adib, donc la directrice adjointe, elle a décidé de nommer, elle, deux élèves qu'elle connaît très bien, à la tête du BDL, donc, qui deviendrait automatiquement président sans aucune élection, sans que les lycéens aient choisi quoi que ce soit. Alors que c'est le principe, c'est que c'est nous choisissons qui sera à la tête du BDL, et pas justement bah là quelqu'un qui a énormément de pouvoir déjà, comme la directrice adjointe. Et donc je demande pourquoi est-ce que cette année on a décidé de nommer deux personnes à la tête du BDL. Et elle répond tout de suite en menaçant de supprimer la fête des terminales. Enfin, le seul argument où là on peut rien faire parce qu'on n'a pas envie qu'elle nous le retire et on sait qu'elle peut. Donc là forcément on se tait. Et à la fin de cette petite interaction, l'élève et moi qui avions parlé, on a été convoqués dans le bureau de Madame Adib. Et donc elle commence à nous crier dessus en disant qu'elle n'avait jamais vu autant d'insolence, que c'était n'importe quoi, qu'on prenait pas la parole comme ça pour dire des idioties si on n'avait pas compris avant, qu'elle n'avait pas besoin de deux petites minettes qui voulaient crier à la révolte, le poing levé, que c'était une atteinte à son autorité, qu'on aurait dit qu'on voulait remettre ça en question. Elle était là, excusez-moi de dire que c'est adjointe, excusez-moi d'avoir du pouvoir, hein, vous, je sais que vous voulez me le retirer, mais c'est pas possible. Et toujours avec des menaces, conseil de cycle, je retire la faillite terminale, enfin, que des trucs comme ça. Et à la fin, elle a donc décidé, parce que ce qui compte un peu le plus pour elle, on dirait, c'est surtout donc son image et un peu ce qu'elle a renvoyé au terminal. Et donc, elle nous a demandé de passer dans chaque classe du terminal pour aller s'excuser de notre comportement, notre insolence, dire qu'on n'avait pas bien compris de quoi on parlait, que du coup, on s'était trompé et qu'elle, elle avait raison. Bah, elle nous a dit que notre punition, ce sera donc de passer dans les classes pour aller s'excuser. Et donc, on rentrait dans les classes et on devait dire... Bonjour, donc on est là pour vous parler de ce qui s'est passé tout à l'heure à la chapelle. Tout d'abord, on s'excuse de notre comportement, de l'insolence qu'on a eue envers Madame Adib. On avait mal compris de quoi on parlait. Elle avait raison. C'était ridicule un peu. Et même ma prof principale nous regardait avec un petit sourire quand on passait dans les couloirs et qu'on croisait des profs qui ne comprenaient pas parce qu'ils voyaient deux élèves faire classe par classe et qu'on leur a expliqué la situation. Ils ont commencé à rigoler, faire le salut de l'armée, parce qu'ils trouvaient que dans ce lycée, c'était vraiment... on avait le droit de rien faire, du coup, parce que là, c'était juste une question posée. C'est la première punition que j'ai eue, parce que moi, j'ai jamais eu de problème de discipline avec aucun prof. J'ai jamais été une élève perturbatrice ou quoi que ce soit. Mais après, il faut pas laisser passer les choses, je pense. Il faut pas se taire, parce que c'est comme ça que les choses changent. Finalement, c'est quand des gens prennent la parole, même pour des tout petites actions, ça change aussi, je pense. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues voir moi et mon ami en nous félicitant, en nous disant que « Ah, heureusement qu'il y a des gens comme vous, il faut pas qu'on se laisse marcher dessus, franchement, merci. » Et vraiment, ça, c'était... Ouais, ça faisait plaisir qu'il y ait un peu de solidarité, que les gens, ils soient là, ils comprennent, ils soient un peu reconnaissants, entre guillemets. Parce que c'est pas du tout ce qu'on avait besoin, mais c'est sûr que ça fait plaisir. Mais ouais, je savais, pendant cette punition, en passant dans les classes, que les gens allaient penser ça, en fait. Je savais très bien qu'ils allaient plutôt nous voir comme deux personnes qui connaissaient un peu une injustice, plutôt que deux personnes qui, les parias qui passent dans la classe, super. Les gens, tout de suite, ils l'ont pris à la rigolade, et c'était là, c'est n'importe quoi, t'inquiète pas, moi je suis fière de toi. Ouais, ça a été un petit événement du début de l'année. Après, du coup, les deux personnes qui ont été nommées par Madame Adib ont trouvé en fait que. Enfin, ils l'ont pris vraiment personnellement, comme si c'était une attaque à leur personne, comme si personne voulait qu'ils soient nommés président du BDL. Et du coup, ils ont écrit une énorme lettre qu'ils ont affichée dans l'entrée, expliquant qu'ils préféraient prendre la décision de partir, je cite, de quitter la vie publique et politique du lycée. Il y avait écrit ça dans la lettre. Celui qui l'a écrit, il veut faire Sciences Po, et il est très tourné vers tout ce qui est un peu politique. Et du coup, je pense qu'il s'est vraiment mis à fond et il a fait le travail de sa vie parce que c'est une longue lettre où il expliquait de différentes manières pourquoi est-ce qu'il préférait se retirer, c'était mieux pour lui, pour tout le monde, pour sa scolarité. Et donc ils ont décidé de partir et du coup il y a juste eu des votes et une élection normale comme chaque année. Même si après t'as des conséquences comme des punitions, des choses comme ça, si finalement t'as réussi à changer la donne, ça fait plaisir. C'est bien. Je pense toujours que si une injustice ou quelque chose qui n'est pas correct, il faut le faire remarquer. Moi, j'ai essayé de peser les mots quand j'ai posé ma question parce que je savais avec qui j'avais affaire. Et donc, on connaît un peu le personnage. Et Madame Adib, quand même, par exemple, elle est très... c'est juste de l'autorité, elle est très stricte. Il n'y a pas vraiment de rapport humain, on va dire, entre elle et un élève. Par exemple, j'ai un ami dans ma classe qui est à l'origine une fille et qui a décidé en seconde de changer de sexe et de devenir un homme. Donc, faire les opérations... quand il pourra, il aura l'âge, l'argent. Et en fait, mais il est considéré dans le lycée comme un garçon. On l'appelle par son prénom de garçon, il s'habille comme un garçon. Enfin, pour nous, c'est vraiment un mec. Et il a été convoqué dans le bureau de Madame Adib, où elle lui a dit « Bon, écoute, nous, on veut pas ça ici, hein, je te le dis tout de suite, ça n'existe pas. Soit t'es lesbienne, ou alors soit t'as un problème, mais tu peux pas être une fille et vouloir devenir un garçon. Alors attends, t'inquiète pas, on va en parler à tes parents, je vais donner le numéro d'un psy. » Enfin, elle a toujours voulu donner des numéros de psy à tout le monde, à convoquer les parents pour rien du tout. Et donc, on sait que c'est une personne qui, pour nous, elle est vraiment... C'est juste une figure d'autorité, comme ça, qui veut juste... montrer qu'elle a le pouvoir et que c'est elle qui décide. Elle a aucune notion en fait de comment s'occuper d'enfants, d'adolescents qui sont dans un environnement pas forcément plaisant, parce qu'il y en a par exemple le lycée, l'école, ça a aucun côté positif, et elle sait pas du tout prendre ça en charge. Et c'est la première à dire mais mon bureau est toujours grand ouvert pour que vous veniez me parler. Aucune envie d'aller lui parler, personne n'ira jamais la voir avec un problème, parce que c'est une personne qui comprend rien, qui est butée, qui est dans son monde à elle, où les choses sont comme ci, comme ça, et moi je savais qu'il fallait pas que je prenne un air un peu c'est pas normal, et du coup justement j'ai tourné la question, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, pas montrer que j'étais indignée ou quoi que ce soit. Ça n'a pas marché du coup. Du coup, elle l'a vraiment pris comme une atteinte à son autorité, humiliation publique devant les 160 terminales. Enfin, gros drame pour elle.
Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, président de l'agglomération du Choletais.
Vous voudrez bien éteindre vos téléphones et rectifier votre position durant la Marseillaise.
À Cholet comme ailleurs, à la Sainte-Barbe, c'est le moment de commémoration solennelle en hommage aux sapeurs-pompiers, à la fois aux sapeurs-pompiers en activité, puis aussi aux sapeurs-pompiers qui sont morts en service au cours de l'année, puisque traditionnellement, dans toutes les communes où il y a une caserne de pompiers, et notamment évidemment dans une caserne importante comme celle de Cholet, il y a un dépôt de gerbes à la mémoire de ces sapeurs-pompiers morts en service. Et puis après, il y a la remise des décorations des pompiers. Il y a aussi des moments festifs, mais ça, c'est autre chose. D'hiver, il y a le bal de la Sainte-Barbe le soir. Enfin, voilà. Mais il y a surtout cette cérémonie très officielle, qui est une cérémonie solennelle, en hommage aux sapeurs-pompiers. Alors, à Cholet, il s'est passé au mois de décembre, quelque chose que, personnellement, je n'ai pas du tout admis, c'est que il y avait depuis quelques semaines des revendications. Et là, la Sainte-Barbe à Cholet, le 1er décembre, les sapeurs-pompiers, quand ils ont été mis au garde-à-vous par leur commandant, pour commencer la cérémonie, ils ont tous tourné le dos au commandant, et nous, on était derrière le commandant, les autorités, le lieutenant-colonel, le sous-préfet, moi-même, le président du SDIS. Alors, le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, qui gère l'ensemble des sapeurs-pompiers d'un département. Ils nous ont tourné le dos, et ils ont quitté les rangs aussitôt. Ils sont allés se mettre sur le côté, c'est-à-dire pas du tout face à nous, sur le côté avec une banderole en grève. Je suis désolé, c'est pas du tout le moment. Ah, moi, j'ai ressenti une grande blessure. Je leur ai dit que c'était indigne et que c'était du grand guignol. Et que je trouvais ça tout à fait fâcheux. Ah, mais moi, je suis parti. Attendez, si c'est pas du guignol, ça, je sais pas ce que c'est. Moi, je suis élu, je suis maire de Cholet, je suis député honoraire, j'étais 15 ans parlementaire, j'estime représenter une population, avoir un mandat, et dans ces conditions, je considère que c'est un problème que... dans la minute qui suivait, on allait lever les couleurs, le drapeau bleu, blanc, rouge, on allait jouer la Marseillaise, on allait déposer une gerbe pour les pompiers qui sont morts en service. Je dis, vous savez, un imbécile habillé en maire, ça reste un imbécile. Et ben, un imbécile habillé en pompier, ça reste un imbécile. Et là, on a eu des imbéciles, je le dis clairement, pas dignes de l'uniforme qu'ils portent, tout simplement. Je peux dire que j'étais en colère, mais bien évidemment, puisque j'étais vraiment pas satisfait de l'attitude des sapeurs-pompiers qui m'ont beaucoup déçu. Mais vous savez, il y a une dizaine d'années, à une Sainte-Barbe, comme ça, ils avaient installé des banderoles pour dire qu'ils étaient en grève, qu'ils avaient des revendications. Et dans mon discours, je leur ai dit, je n'admettais pas ça, qu'on ne met pas des banderoles sur la caserne des pompiers, et surtout pas le jour de la Sainte-Barbe. Et les représentants syndicaux sont venus s'excuser la semaine d'après dans mon bureau en me disant qu'ils avaient mal agi et qu'ils regrettaient, parce que c'est vrai que c'était pas le moment. Et bien là, ils ont fait pire. Ils ont fait pire de quitter les rangs, ce que je trouve totalement inadmissible. J'ai fait mon service national comme beaucoup de jeunes, et par ailleurs je suis capitaine de frégate dans la marine, dans le cadre de la réserve citoyenne. Quitter les rangs quand on est en uniforme, je veux dire, vous savez, pendant la guerre 14-18, on les fusillait. Mais quitter les rangs, ça a une signification. Est-ce que les militaires font des choses comme ça? Est-ce que les policiers font des choses comme ça? Est-ce que les gendarmes font des choses comme ça? Non. Si vous avez un problème dans l'armée, moi je sais pas, le système Louvois qui fonctionne mal pour les soldes, vous déposez pas les armes au milieu des Champs-Élysées le 14 juillet. C'est une cérémonie, vous la respectez. Les pompiers, ils ont le droit de tout faire. Moi, je crois qu'il y a un moment, il faut aussi mettre les pieds dans le plat, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faudrait rectifier. Il serait temps aussi de mettre un petit peu tout ça à jour. Parce que je vous dis, la difficulté, c'est qu'on est dans un pays où les pompiers, on n'a jamais le droit de rien dire. Ben moi, je dis les choses qui ne vont pas, et ça ne me pose aucun problème. Parce que là, par exemple, ceux qui ont eu cette attitude à la Sainte-Barbe, à ma connaissance, ils ne seront pas sanctionnés, tout simplement. Moi, très franchement, je suis commandant des pompiers, je mets une sanction pour les pompiers qui ont agi comme ça ce jour-là. Ça me paraît tout à fait légitime. C'est comme si, je sais pas moi, un ramasseur de poubelles dans mes services, tout d'un coup, un matin, décidait, je ramasse plus les poubelles. Ou je les renverse et puis je les mets pas dans le camion. À un moment, il y aura une sanction, me paraît normal. Donc là, je vois pas comment on peut ne pas sanctionner une telle attitude qui, je le répète en plus, est une véritable insulte à l'uniforme qu'on porte.
Non, la Sainte-Barbe est terminée. Ce n'est pas acceptable.
Ce moment a été l'occasion de remettre à plat ce que nous faisons pour les pompiers. Et là, on me dit, effectivement, depuis des années, on a les accès aux équipements sportifs qui sont gratuits pour les pompiers. Enfin, attendez, nous payons à la ville de Cholet 3,2 millions pour la contribution de la ville aux sapeurs-pompiers. Donc, il y a un moment, je dis, attendez, on ne va pas en plus leur donner des accès gratuits à la piscine quand le moindre usager administré de Cholet paye sa piscine comme tout le monde. Ils étaient une dizaine à venir toutes les semaines dans la piscine, par exemple, si on prend la piscine. C'était le mercredi matin, je crois, 1h30, où deux lignes d'eau dans la piscine étaient réservées aux sapeurs-pompiers.
Du coup, vous avez privé les pompiers de piscine?
Non. Pourquoi est-ce qu'on fournit gratuitement aux pompiers l'accès à la piscine? Je voudrais qu'on m'explique. Donc, il y a un moment, ça suffit. Alors, le stade, c'est pas un problème, parce que de toute façon, vous pouvez courir où vous voulez. Moi, je fais du footing quand j'ai le temps. Je vais courir autour d'un lac ou dans les bois. Je vais pas au stade, donc ça, c'est pas un souci. Je vois pas très bien en quoi ça pose un problème. Encore une fois, le SDIS reçoit de l'argent. Le service départemental d'incendie et de secours reçoit de l'argent des communes. 3,2 millions pour la ville de Cholet. Je vois pas pourquoi on mettrait en plus, gratuitement, des équipements. Ça fait trop longtemps que ça dure et ça a été sans doute l'occasion de remettre les choses à plat. Non mais moi j'attends des excuses. À l'instant où il y a des excuses, ils auront la contribution. Et c'est aussi simple que cela.
Et en attendant?
Non, on paye pas. 3,2 millions. On attend. Mais en attendant, oui, c'est vrai que ça peut poser un problème pour le budget du SDIS, parce que 3,2 millions, c'est quand même pas négligeable. Mais là, je n'ai pas eu un mot de qui que ce soit chez les pompiers, y compris dans leur hiérarchie. C'est-à-dire, on est dans un pays où on ne dit plus rien. Enfin, tout est en train de foutre le camp dans tous les sens. Mais écoutez, quand une cérémonie de Sainte-Barbe se déroule comme ça, très franchement, c'est quand même significatif d'un état d'esprit. Il y a plus d'autorité, l'état de droit s'en va. Vous savez, les sapeurs-pompiers, ils peuvent hurler, mais il y a quand même des quartiers entiers en France, dans des grandes villes, où ils n'aident plus les pieds parce qu'ils peuvent pas y entrer. Il ferait mieux de s'occuper de ça et de se battre pour pouvoir faire leur métier. Donc je crois qu'il y a un moment, si on dit pas les choses publiquement et haut et fort, et je le redis, c'est pas parce qu'il s'agit des sapeurs-pompiers qu'ils ont tous les droits. Non, ils sont des serviteurs de l'État, comme beaucoup de Français, et ils ont aussi des devoirs. Il ne s'agit pas d'aller mettre la fessée à tout le monde à longueur de temps, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a sans doute un certain nombre de principes, encore une fois, de valeurs de notre nation, qui ne sont plus respectées aujourd'hui, et on laisse faire.
Il faut des gens comme vous pour changer ça.
Mais je ne sais pas s'il faut des gens comme moi, mais moi, vous ne m'empêcherez pas de dire que quand il y a des choses qui ne sont pas correctes, moi, je les exprime sans aucun problème. C'est clair. Si j'ai pas eu d'excuses à la prochaine Sainte-Barbe, je ne serai pas à la Sainte-Barbe. Il n'y aura pas de représentant de la collectivité à la Sainte-Barbe.
Et pas de cotisation?
Ah ben, la contribution ne sera pas versée jusqu'à ce qu'on vienne nous la voler. Mais en attendant, on ne la versera pas, non?
Je m'appelle Mamadou, j'ai 31 ans. Mon enfance, j'étais dans les Yvelines. Moi, j'habitais dans une résidence. C'était cool. J'ai de bons amis, on s'amusait, on jouait, on faisait du foot. J'ai eu une enfance heureuse, sauf que voilà, après, à l'école, je me battais beaucoup quoi, à l'école. Je peux blesser, ça dépend parfois. Ça peut aller fort quoi. J'ai pété un bras d'un élève et puis j'étais viré de l'école et mon père m'a dit bon maintenant ça suffit, maintenant il en a marre de chaque fois être convoqué et donc il préfère que je rentre au bled et puis comme ça il est tranquille. Parce que là je suis insupportable, il comprend pas comment ça se fait, je suis comme ça et tout. Il dit que pas que je devienne un voyou, donc voilà, il m'a envoyé au pays. Bah, c'était comme une punition. Là, à ce moment-là, j'étais fâché, quoi. Parce qu'après, je dis à mes potes, tout ça, je ne peux plus les voir. Ils faisaient des bêtises aussi, ouais. Ils agressaient des gens, tout ça. Et puis voilà, ils volaient leur portable. Voilà, quoi. Et mon père, bah, il a peur que je pars en prison, tout ça. Parce que si je restais ici, je vais le donner à un bandit, quoi, un grand bandit, donc... Je pense comment j'étais à l'époque, je pouvais devenir un voyou, puisque bah, je n'étais pas conscient de ce que je faisais, tout ça. À l'époque d'un jeune, on pense faire que des conneries, tout ça, quoi. Des vols, et puis j'ai fait des gardes à vue, tout ça, mais voilà, mais je suis puni. Et à l'âge de 14 ans, je suis parti au pays pour me calmer, quoi. À Kaï, au Mali. C'est pas très loin de Dramané en fait. Un village, voilà quoi. Voilà, je suis parti en 2000 au pays et après je suis revenu en 2004. Je connaissais rien. Mais à l'âge que je suis parti, il y a 14 ans, j'ai connu des choses. Voilà, l'Afrique et la France, c'est pas pareil quoi. Le copain connaissait pas ce qu'est le bled, quoi. Il pensait que c'est un endroit où tu vas partir, c'est le paradis, il y a tout ce que tu veux, c'est la fête, tu vois. Il pensait que c'est comme ça, mais bon, pas comme ça aussi. En arrivant, ouf. J'ai ramené ma Game Boy avec moi, tout ça. Et je pensais qu'il y avait de l'électricité, tout ça, mais en fait, il n'y avait pas d'électricité. Donc la batterie finissait, c'était fini, quoi. Ah, la journée, je partais au champ, et on cultivait au champ le maïs. Tu voyais les animaux se promener partout dans les maisons, des chèvres, des vaches, c'est libre quoi. Avec les gens là-bas, on n'a pas la même mentalité, l'éducation. Parce que tu vois, la plupart des jeunes d'ici, ils répondent à leurs parents, ils disent insultes, tout ça. Alors que là-bas, tu peux penser que t'es ton père ou ta mère ou le grand frère, c'est correction là-bas. Et ils te corrigent, ils te frappent. Ah. Ah ben là-bas, donc le bâton. Ça m'arrive parce que un jour, je sais pas, j'ai pris un couteau contre quelqu'un. Voilà, je voulais le planter. Mais après, une correction. Coup de fouet. Lui, il a rien eu. Parce qu'il était plus grand que moi. Donc, quand il y a un instant entre un petit et un grand, donc c'est le petit qui prend. Par rapport à ici, ton gosse, il fait une connerie, tu gifles, c'est la police qui vient te chercher. Quoi. Alors que là-bas, c'est la police même qui va dire faut faire plus de corrections, faut écouter les parents et voilà, faut aller au pas. Quoi. Des questions parfois que je faisais des conneries, tout ça, pourquoi je faisais ça, c'est pas bien, mais au jour d'aujourd'hui, je regrette quoi. Là maintenant, je suis une autre personne, je pense à l'avenir, c'est ça qui a changé. J'ai grandi, c'est à dire que j'ai vu la vie de là-bas, comment les gens ils sont dans la galère, c'est compliqué. Maintenant, je sais quoi, le bien et le mal, je sais c'est quoi. Avant, je m'en foutais de tout. Puis là, maintenant, ça y est. Je suis posé dans ma tête. Et j'ai les potes, ouais, il y en a, ils sont en prison. Après, chacun fait une nouvelle vie, quoi. Au fond de moi, je pense que c'est une bonne punition que je suis parti. Je lui ai dit merci à mon père. Il m'a fait découvrir un autre monde. Et j'ai compris des choses. Et là, maintenant, je travaille, je fais la formation dans la sécurité, dans la restauration, et je fais la formation à l'armée. Après, je suis pas resté, quoi. Trop de discipline. Faut marcher au pas et tout. Là, je travaille dans la restauration. J'ai une femme, j'ai deux enfants. Ça fait bizarre, parce que d'être père, c'est pas facile. Ah ouais. Il y a les enfants qui sont là, faut les éduquer et tout. Ça change.
Est-ce que pour eux aussi, un jour, s'il faut, le bled, ça peut être une punition?
Peut-être. S'il le faut un jour, oui. Franchement, j'ai vraiment aimé le bled. Enfin, on part ici, là. Je préfère là-bas. Parce que là-bas, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. T'es pas enfermé. Mais alors qu'ici, il y a certaines choses que tu peux pas faire. T'es pas libre. Par exemple, ici, tu peux pas marcher avec une arme. Tu peux pas te prendre avec une arme, tout ça. Alors que là-bas, tu peux. Tu peux aller à la chasse comme tu veux. Tu peux rouler en moto sans permis. Là-bas, t'es libre. Voilà. Si tu me demandais de repartir là-bas, je repartirais.
C'était Punition, un reportage d'Elodie Maillot réalisé par Lise Combe. Merci à Abdoulaye, à Souleymane, à José Fuentes, à Tatiana et à Marie. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.
Jone bena sunjata tinyeza Jawara fanta mbi bolo krosale Kalebe sunjata tinyeza le Jone bena farafinya kanola Anga kokoro betuluna na kotu babuya Nama punya danere